Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez dans la chatroom? J'essaie, attends, de rétablir un petit peu la caméra. Pourquoi j'ai un cadrage comme ça? Salut Samuel, 5 sur 5, on m'entend nickel? Ah oui, ma chaise a été baissée en fait. C'est pour ça que j'étais pas très bien cadré. J'espère que vous allez bien. Et oui, les 90 000 abonnés sur la chaîne principale Naotech, ça s'approche. Les 100 000 aussi. Je pense qu'on devrait arriver à 100 000 abonnés vers quelque part en janvier. Peut-être vers fin janvier, d'après mes calculs, on devrait, sauf effectivement événement imprévu, on devrait arriver aux 100 000 abonnés. Mais plus important que ça, tiens d'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer en exclusivité. Nous, il y a une étape super importante qui s'est passée en début de semaine. On l'a pas annoncé, sauf que c'est plus vrai aujourd'hui. Mais on avait dépassé les 500 tipeurs, ce qui est quelque chose de très important pour nous. Là, on est retombé à 498, mais globalement, voilà, on passe à 0,5% de nos abonnés. Le but étant un jour d'arriver à 1% de nos abonnés sur YouTube qui deviennent des contributeurs. Pour nous, c'est une étape beaucoup plus importante que le nombre d'abonnés en fait sur YouTube. Voilà, c'était une petite aparté. Et justement, en parlant des tipeurs et en remettant ma caméra droite, yep. Eh bien, nous aimerions remercier ce matin Drahu666, eh ben dis donc, t'as pas peur. On aimerait remercier DVD aussi, on aimerait remercier Michael, on aimerait remercier Chameau et Laroumet. C'est nos tipeurs, c'est 15 mois de tip. Merci, merci beaucoup à eux. Sans eux, je ne serais pas là ce matin. C'est comme si, voilà, vous aviez. Faut que j'arrête avec cette blague, hein. Elle est pas très drôle, hein, du mec qui disparaît. On est bien d'accord. Salut Migo. Bah écoute, si t'as ton nouveau Shadow, nickel, super. J'espère que t'en es content. Des news toutes fraîches. Et oui, et des matins bien frais aussi. Il y a eu de la neige sur Paris. J'ai pas regardé ce matin. Il n'a pas neigé ce matin sur Paris. Cette nuit sur Paris. Je crois pas. J'ai pas l'impression. Oui, Samuel, vous me le rappellerez. Je peux pas te le. Je sais pas. Je crois pas que je puisse te le faire là en direct. Si. Alors attends. Voilà, c'est bon. Geoffrey, tu es modérateur. Je sais pas après si j'ai une manip à faire sur YouTube. Il faudra que je vois. Oui, je sais que les activations de Shadow ont un petit peu de retard. Allez, de quoi on va parler ce matin? De quoi on va parler ce matin? Je vous avouerai que mes sujets, il n'y avait pas grand-chose. J'ai eu très peu de temps pour préparer ce Techscope. Donc, on va le faire un petit peu ensemble. Mais on va parler quand même de Microsoft Edge qui débarque sur l'iPhone et sur les Android. Donc, votre expérience Microsoft Edge que vous avez sur votre Windows, vous allez pouvoir la continuer sur tous les smartphones maintenant. Je crois que c'était déjà hein, sur Android. Mais là, c'est sur iOS. J'ai juste eu le temps de l'installer. Est-ce que ça s'est mis d'ailleurs? Oui, je l'ai sur mon iPad, donc on va pouvoir la regarder ensemble. Il y a des coupures. Bon, ben là, je ne suis pas en 4G. Donc, est-ce que beaucoup de monde a des coupures ou pas? Ou est-ce que, parce que si certains ont des coupures, il suffit que vous redémarriez votre app, parfois ça fait du bien. Non, ça a l'air bon. Ok, tout est ok, pas de coupure, on continue. On parlera également de Lyft. Alors Lyft, on les connaît moins parce qu'on ne les a pas en France, mais Lyft, c'est le gros concurrent d'Uber. Eh bien, comme dit le vieux dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque Lyft a vu ses revenus tripler cette année. On parlera également de Jeff Williams. Alors Jeff Williams, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est, enfin vous l'avez déjà vu, c'est un des top exécutifs de chez Apple et il lance avec Apple une étude médicale assez révolutionnaire dont je vous parlerai tout à l'heure. On parlera également de Bitcoin. Alors, j'ai deux articles sur les Bitcoins, mais avant ça, je vous parlerai de la vidéo, effectivement, qu'a sorti Steven, très intéressante sur le Bitcoin. J'en ai d'autres, hein. Il y a plein d'émissions très intéressantes sur YouTube sur le Bitcoin, mais je trouve que là, Steven a fait quelque chose, une vulgarisation du Bitcoin qui est vachement intéressante, vachement bien faite. Donc, déjà, bravo à lui. Et on en profitera justement pour parler d'une sale journée qu'ont passé les clients justement de la plateforme d'échange Coinbase, dont je crois ils parlaient. Et effectivement, qui ont eu un petit peu des déboires. Ça nous permettra un petit peu de parler du Bitcoin aujourd'hui. Je sais qu'on en parle beaucoup cette semaine, mais c'est quand même un sujet assez brûlant, hein, le Bitcoin en ce moment. On parlera également des 30 milliards de Bitcoin qui sont potentiellement perdus. Et oui, parce que c'est une histoire un peu riche en rebondissements. Ça fait 9 ans, 10 ans que le Bitcoin existe. On parlera également de... Marion vous a fait un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé, effectivement, avec la vulnérabilité des Mac, avec le problème des passwords. C'est patché, mais manque de bol, il y a un bug dans le patch. Et oui, Apple chie dans la colle. On en parlera donc tout à l'heure. Et on terminera, puisque certains d'entre vous sont peut-être à se demander comment vais-je pouvoir déclarer ma flamme? Comment vais-je pouvoir faire ma proposition? Eh bien, je vous proposerai une solution à base de Pokéball et d'alliances Pokémon de meilleur goût et de meilleur effet. Voilà, un petit article bijouterie, hein. Ça nous fera du bien en fin d'émission. Voilà, il y a un pépin dans la pomme, toutes les blagues hein, sur Apple. On est capable de les faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc contenu pas très dodu ce matin, mais ça nous donnera peut-être plus de temps. Et puis, comme vous savez, hein, je suis un maître dans l'art de me mettre en retard. Donc, même si vous me donniez un seul article, je serais capable de faire un Techscope qui se terminerait à 9h30. Hein. C'est un talent, c'est quelque chose d'inné hein, chez moi. Je suis passionné, je suis surtout très très bavard, hein. J'ai quand même un problème avec ça. Hein. Bon, enfin, c'est un problème. Vous voyez, c'est comme ça, je pars sur... Bon, allez, Jérôme, focus, premier article, Microsoft Edge, hein. Moi, je sais que je n'utilise pas du tout Microsoft Edge. Est-ce que vous, certains dans la chatroom, vous avez switché, depuis que vous avez le nouveau Windows, à Microsoft Edge? Est-ce que c'est un pas que vous avez franchi? Très rarement, non. J'aime pas, nope. Non, non. Edge, même pas en rêve. Ouais. Vous n'êtes pas fan, hein? Trop instable? Connais pas? Bah, Edge, c'est le nouveau nom d'Internet Explorer, si on veut être méchant. Pas très ergonomique. Moi, de ce que j'en ai vu, je l'ai testé un peu, Edge. Il y a des trucs, ça me fait penser à Safari. Et il y a des choses que j'aime bien dans Safari. J'aime pas tout, mais... J'ai balancé mon PC par la fenêtre, d'accord, oui, non, là, effectivement, tu ne peux pas utiliser Edge. Tester, mais sans suite. Bon, eh bien, si jamais vous voulez lui redonner une chance, eh bien, sachez que vous pouvez le télécharger sur votre mobile et notamment iOS. Hop, vérifier synchronisé. Je suis en train de le lancer. Ah, merde, attendez, il me faut un mot de passe, je fais vite. Ah oui, mais attends, mon mot... On va y arriver. Est-ce que c'est celui-là? Ah merde, il faut vérifier mon identité dans un mail. Ah là là, cette sécurité informatique, là, ça me fait perdre un temps. Est-ce que je l'ai reçu au moins le mail? Bon, je n'ai pas reçu le mail. Bon, bah, on ne verra pas Edge ce matin. J'aurais dû le lancer avant l'émission, mais je n'ai pas eu le temps. Allez, petit mail. Ouais, bon. Ah, on va en parler en théorie, hein, parce que effectivement, j'aurais pas l'occasion de le voir. Donc, effectivement, je crois, hein, confirmez-moi, mais il était déjà sur Android, non? Edge. Parce que là, je crois que la grosse news, c'est qu'il débarque sur iOS. Vous savez pas s'il était sur Android ou pas? Non, vous savez pas non plus. Bon, en tout cas, là, il débarque. Et c'est vrai que le but principal de l'arrivée de Microsoft Edge sur mobile, c'est finalement de vous permettre de continuer l'expérience Edge sur votre mobile. C'est toute la stratégie Microsoft. On n'est plus dans la guerre de l'OS. C'est-à-dire Microsoft ne cherche pas à imposer des Windows Phone, hein, cette époque-là est révolue. Donc ça leur pose aucun problème de le sortir, que ce soit sur Android ou sur iOS. Pour l'idée, c'est que vous utilisiez des produits Microsoft. Bon, là, la chatroom, vous n'êtes pas particulièrement, voilà, intéressé, parce que comme le dit très bien Chris, pour continuer l'expérience, il faudrait déjà que quelqu'un l'utilise sur PC. Et comme vous n'avez pas l'air fan du truc, en fait, ma news ne sert strictement à rien. Après, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs navigateurs. Moi, je sais que sur mon ordinateur, j'en ai trois. J'en utilise minimum deux sur mes mobiles de navigateurs. Je fais surtout ça. C'est une manière pour moi, c'est un moyen mnémotechnique de différencier mes usages Internet. En gros, je vais utiliser tel navigateur pour tout ce qui est personnel, bancaire, avec certaines de mes identités sur Internet. Je vais l'utiliser avec tel navigateur. Quand je travaille pour Nowtech, je vais plutôt utiliser un autre navigateur. Comme ça, je ne me mélange pas trop dans mes onglets, dans mes identités, dans ce genre de choses. Alors, je sais, hein, qu'avec un seul navigateur, je pourrais switcher mes identités, mais moi, ça me fait un peu un repère visuel, en fait, selon les tâches que j'ai à accomplir sur Internet. Tu fais comme moi, Damien. Bon, ça me rassure, je suis pas seul. Voilà, en fait, je classifie mes usages d'Internet et je les mets dans différents types de navigateurs. Par exemple, je sais que vraiment pour tout ce qui est manip bancaire, facturation, on va dire tout ce qui est compta, j'utilise un navigateur et on va dire que c'est mon navigateur le plus safe que j'utilise pour faire ça. Et je sais que je fais que ces manips-là et tout ce qui est achat, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a de l'argent, en fait, j'utilise un seul navigateur. C'est aussi des questions de cookies et de choses comme ça, quoi. Et globalement, les schizo-browsers Internet, exactement, très bon nom. Moi, globalement, ouais, j'oscille entre bah, les trois navigateurs que j'ai. Hein, j'ai Safari, j'ai Firefox et j'ai Chrome sur mon ordinateur. Et je sais que sur mon iPhone, j'oscille entre Chrome et Safari. Mais j'avoue que je me mets de plus en plus à Safari. Je le trouve bien, Safari. Ouais, il est bien intégré dans iOS. C'est un peu ça, le truc. Pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, on répondra en fin d'émission, hein. Non, Nazado, t'as pas tort. Juste le moteur, je fais même pas attention au navigateur. Si, si, Bob, je te reçois, mais tu sais, je peux pas lire toute la chatroom en faisant les articles. Salut, Vertige. J'ai plus confiance en Safari qu'en Chrome. Ouais, moi, c'est pas tellement une question de confiance. C'est plutôt, je trouve la navigation assez agréable avec Safari. J'aime bien. C'est pas trop chargé. Je commence à trouver Chrome un peu chargé, mais je vois que vous êtes pas mal à faire la même chose que moi. Je vois que vous êtes pas mal à faire ça. Bon, en tout cas, c'était la news qui intéresse personne, mais que j'ai faite quand même. Microsoft Edge, donc, sort sur les iPhones. Vous pouvez essayer, hein. Vous verrez bien, ça peut vous plaire, on ne sait jamais. Sur un malentendu. pas assez d'extensions sur Safari. Et justement, moi, il y a ce côté un peu usine à gaz des extensions de Chrome. J'ai peut-être trop d'extensions Chrome, c'est pour ça. Vous, sur votre mobile, vous utilisez quoi? Surtout Chrome. Je vois pas mal avec Safari, mais il y en a qui utilisent autre chose que Chrome et Safari sur mobile, genre Opera ou... Opera, oui, il y a sur mobile, oui. Firefox. Je crois qu'il y a Firefox sur iOS maintenant. Netscape, d'accord. Donc nous avons un exilé des années 90, Digital Time. Tu sais qu'il faut faire des mises à jour hein, de temps en temps. Firefox, Liberty de Quant, ouais. Mosaïque, carrément. Opera, Brave, Mosaïque. Ah ouais, là on a des snobs, hein. Alors Sphinx, je connais même pas. Vivaldi. Il y a un navigateur qui s'appelle Vivaldi? Ah. Navigue sur terminal, carrément. Hardcore. Dauphine, oui, je crois que j'en ai entendu parler. Ah oui, Sphinx, c'est un browser en ligne de commande. D'accord, c'est pour les vrais barbus, ça, donc. Celui de Samsung, le navigateur de Samsung? Jamais essayé, je crois. Vivaldi, d'accord, c'est une variante d'Opera. Ça se tient. Bon, bah, je vois que vous êtes assez diversifié en navigateur. C'est bien, c'est bien. Toujours chercher la variété. Annonce. J'ai plein d'annonces en vrac à vous faire. D'abord, puisque c'est le 1er décembre, et comme vous le voyez, il n'y a pas de déco de Noël, vous dites, oh, il n'y a pas Noël cette année, ça va pas, c'est pas bien. Mais si, il y aura Noël cette année. Et cette année, pour le mois de décembre, nous allons avoir un sponsor. Et pas n'importe quel sponsor. Je n'ai pas encore préparé le texte du sponsor. Mais je vais vous faire un peu un spoiler du sponsor ce matin. Hein? Le sponsor, c'est cgourmand.fr. Et cgourmand.fr, je l'ai reçu, je l'ai pris ce matin. Hein? J'ai reçu un gros paquet de cgourmand.fr. Donc, je vous fais un unboxing en live. Hein, et puis on parlera un petit peu plus de la boîte la semaine prochaine. Alors là, ça m'a l'air d'être des toffees ou des caramels en tout cas. Des petits caramels. Ici, oh, un petit baluchon de chocolat. Alors je pense qu'on fera des dégustations. Je ne sais pas si on vous fera des dégustations en live. Parce que le sucre le matin, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter de plus en plus. On verra. Faut que j'en discute avec moi-même. Ah non, c'est pas des chocolats. C'est des pâtes de fruits, là, que nous avons ici, des petites pâtes de fruits. C'est pas le bon lien, là, Sam? Vérifiez peut-être. Le lien, c'est C, comme Cécile, cgourmand.fr. Regardez, oh, elles sont jolies en plus. Regardez ces jolies tablettes de chocolat. Ça va être bon. Il y a quoi? Chocolat pur beurre de cacao, chocolat noir 75, chocolat au lait 65% de cacao et chocolat noir 75. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, il y en a un de Côte d'Ivoire et un du Venezuela. Je pense que Marion va être assez contente. J'ai des amandes Carados. Je suis en train de vous faire mes salivés. Ça a l'air top bon, j'ai vu. Duo caramel fleur de sel. Et on termine avec... C'est du nougat, ça, je pense. Miel et amandes. Nougat blanc de Provence. De Provence. Pas mal, hein? Bon, en fait, l'idée, parce que C'est gourmand, c'est la femme d'un de nos tipeurs dont j'ai plus le nom. Je vous préparerai tout ça pour la semaine prochaine, qui a fait ce site et je vous dirai pourquoi. C'est le meilleur site pour aller commander vos gourmandises de Noël. Et on vous fera effectivement, peut-être pas des dégustations directes, mais on vous fera des comptes rendus de dégustation avec Marion. Rien n'est mauvais si on le fait avec modération, Nazado. Hein ? J'ai qu'une envie, là, c'est de prendre tous les caramels et me les mettre d'un coup dans la bouche. Comme ça. Mais ce n'est pas de la pub cachée du tout. C'est de la vraie publicité, puisque c'est un sponsor qui a payé pour son espace publicitaire. Donc, c'est de la publicité qui ne se cache pas et qui s'assume pour cgourmand.fr. Voilà. Hein ? Vous êtes tellement obsédé par de la pub placement produit. Nous, la pub, on ne la cache pas. Quand il y a de la pub, elle est là. Tech pub. Exactement. En tout cas, nous, on est très, très contents de les avoir. On sponsor pour décembre. Hein, l'occasion tombe très bien. Parce que s'il y a un moment où on peut se lâcher quand même sur les confiseries, on va dire que c'est en décembre. Quand même. Voilà, voilà. J'avais deux autres annonces à vous faire. Je vais essayer d'aller vite. D'abord, exceptionnellement, pour ceux qui n'étaient pas là avant-hier, j'annonce que, exceptionnellement, il y aura un Techscope samedi. Mais exceptionnellement, il ne sera pas sur cette chaîne. Je vous explique. Tech News and Tech, que vous connaissez peut-être, la chaîne YouTube Tech News and Tech, organise vendredi, à partir de vendredi, je crois 19h, ça commence, un marathon de 24 heures en live, où il y aura plein de cadeaux à gagner, plein de trucs, ambiance Noël, etc. Et je suis invité, j'y serai en tout cas à partir de 8h le samedi matin. J'y serai le samedi matin, oui, qui ne connaît pas Tech News and Test. Il y a des gens, il y en a qui ne connaissaient pas, hein, Tech News and Test, hein, quand j'en ai parlé. Hein. Ne croyez pas que tout le monde connaît. C'est à partir de ce soir. Non, c'est à partir de ce soir qu'il commence le 24 heures. Et moi, j'y serai demain à partir de 8 heures, samedi matin donc, pour vous faire un Techscope, pour montrer un petit peu ce que c'est que Techscope. Puis après, je pense que je resterai un peu pour discuter de la chaîne et tout ça. Je connais effectivement Romain et ça devrait être bien sympa. Je pense que tout le monde sera bien crevé demain matin à 8h. Mais si vous êtes là, hein, connectez-vous au live. Ça fera plaisir d'avoir des habitués. Je serai en live au marché pour choper des légumes. Ah bah alors là, ma bonne dame, on peut pas tout faire. Hein. Donc pour ceux qui peuvent, rendez-vous demain matin. Rendez-vous demain matin à 8h. Et la dernière annonce, vous avez peut-être vu, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube principale Nowtech, vous avez peut-être vu que j'ai posté un texte. Et oui, puisque maintenant YouTube nous permet de poster comme ça. Et ça va être super pratique pour communiquer avec vous. En gros, on n'a plus vraiment besoin d'un site internet, puisque maintenant on peut poster des articles en plus de nos vidéos, donc vraiment vous tenir au courant d'un certain nombre de choses. Et justement, le premier article que j'ai posté, c'est parce que je vais lancer une émission qui s'appelle « Vide ton fac ». Je suis très très fier de ce jeu de mots, « Vide ton fac », où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Et je vais répondre à celles, on va dire, aux questions favorites. L'idée, c'est que vous alliez dans ce poste. Si vous avez une question, vous la postez, mais surtout, le plus important, parce qu'il y a déjà, je crois, 90 questions, donc déjà, je pourrais pas toutes les faire, mais c'est que vous votiez pour vos questions favorites, que vous fassiez remonter les questions qui vous paraissent pertinentes ou vous aimeriez bien, auxquelles vous aimeriez bien que je réponde. Donc, très important que vous alliez mettre des thumbs up sur les questions que vous aimez bien. Oui, c'est vide ton sac avec un caramel dans la bouche, tout à fait. Il y a du tri à faire. Ben justement, c'est à vous de le faire. Donc, allez mettre des thumbs up aux questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Je vais voir. Mais l'idée principale, vous l'aurez compris, j'ai un gros problème de gestion des questions. Je crois que certains, quand ils ont vu déjà le nombre de questions que j'ai en ouvrant ce type de poste, vous commencez à percevoir, globalement, c'est pas ce que je reçois par jour, mais on va dire déjà le nombre de questions que vous avez vues dans ce poste, c'est à peu près ce que je reçois, on va dire, sur 3-4 jours. Donc vous voyez le fond de mon problème et pourquoi je n'arrive plus à répondre aux questions des gens, que les gens me posent sur Twitter, enfin par tous les moyens d'ailleurs, j'ai des questions qui me sortent de partout. Vous voyez un peu le problème, effectivement, on est très content de la notoriété que la chaîne commence à avoir, mais en plus, en cette période de Noël où les gens achètent des trucs tech, je suis devenu le tonton tech à qui tout le monde demande un conseil, et là, mais c'est un cauchemar. Je reçois... là, vraiment, hier, j'ai dû recevoir entre 30 et 35 questions directes, entre des mails, des messengers, des Tipeee... Il n'y a pas eu de notification pour cette vidéo. Tu parles de laquelle, les petits génies? C'est pas une vidéo dont je parle, justement, c'est un article. Non, il n'y a pas de notification, je crois, pour ces articles. Tiens, justement, j'aimerais savoir. Je suis pas loin de recevoir des pigeons voyageurs. J'ai des gens qui m'ont quand même arrêté dans une FNAC, que je salue au passage, d'ailleurs. Mais c'était très sympa, on a geeké pendant un bon quart d'heure. En parlant d'écouteurs audio et de Shadow, justement. Tonton Tech. Ah, c'est vraiment... ouais, Tonton Tech. Non, au secours, je veux pas de ce nom-là, hein, Tonton Tech. Je comprends, hein. Moi, enfin, mais bon, c'est ce que j'expliquerai dans l'émission. Là, je suis vraiment face à un choix cornélien. Soit je continue à faire des vidéos, soit je passe mon temps à répondre aux questions. Merci Samuel d'avoir donné le code Shadow PC à la personne qui voulait. Je crois que c'est tout ce que j'ai en annonce à vous dire, mais en tout cas, allez sur ce post. Vous le trouverez donc sur la chaîne YouTube, oui, parce que maintenant, on peut mettre des posts sur la chaîne YouTube. Et vous pourrez mettre des thumbs up sur les questions qui vous intéressent le plus ou rajouter les vôtres. Voilà, merci Samuel qui a mis le lien. Mais tu sais, déjà, je dors plus beaucoup, hein, Bozidar. La nuit dernière, je crois que j'ai dormi 3 heures. Et t'as tout compris, Caribou. Du coup, je décide de répondre aux questions en vidéo. Non, mais mine de rien, mon raisonnement est aussi que, tant qu'à faire, si je dois répondre aux questions, autant que ça fasse du contenu sur la chaîne. Ça s'appelle deux pierres d'un coup. On répond en plus plus vite à l'oral que de devoir taper des messages à tout le monde. Le lien Charontech... Check. Ça marche pas. Je pense que tu as eu un problème de correcteur. Shadow Tech ne marche pas. Bah, tu vas sur shadow.tech. Hein. Il n'y a pas de lien. Je crois qu'il y a shop derrière. Mais enfin, tu trouveras leur boutique. Ce qu'il faut, c'est un code. Le code parrainage que Samuel a donné. Yes, this is French, Mr. Seu. This is French. Allez, on continue quand même l'émission. C'était là, effectivement, par contre, une partie annonce bien dodue, comme Marion dirait. On va parler un tout petit peu de Lyft. Hein. C'est plus de la brève que vraiment de la news. Mais Lyft, vous savez, c'est les voitures roses avec une grosse moustache. On les connaît pas en France parce que ils n'ont pas débarqué en France. En tout cas, pour l'instant, ils sont surtout aux États-Unis. C'est le rival historique de Uber. C'est quand même une grosse, grosse compagnie. Et quand on dit, hein, le vieux dicton populaire qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, vous savez que c'est une anus horribilis. Et oui, ça fait rire, hein, toujours cette expression de la reine d'Angleterre, anus horribilis. C'est une année horrible pour Uber. Puisque effectivement ils vont de bad buzz en bad buzz, enfin ils sont secoués par le scandale et leur image de marque est sérieusement écornée. Eh bien, ça profite très très bien à Lyft. Oui, anus c'est toujours rigolo, c'est vrai. Hein, ça, il y a pas, voilà, un petit anus bien placé, hein, c'est toujours un truc rigolo. Focus, Jérôme. Le revenu est aujourd'hui, première moitié de 2017, 483 millions de dollars en revenus, comparé aux 150 millions de dollars sur la même époque l'année précédente. Donc ça va bien là, ça leur marche bien. Anus et Renmer. Oh là 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 là. La chatroom. Juste après Caca Boudin. C'est vrai que Caca Boudin, c'est une valeur stable. Hein. Le Caca Boudin est indétrônable, si je puis dire. Jérôme, focus. La chatroom, attention, hein, la chatroom. Arrêtez. Je vous regarde pas, la chatroom. Je vous regarde pas. Vous êtes en train de me corrompre. Et on est en train de partir, hein, et je vais faire le prochain article. Ça dérive, effectivement. Allez, on va parler, donc on est très content pour Lyft, hein, mais qu'ils viennent en France, hein, on verra, hein, qu'ils se prennent un petit peu des syndicats, là. C'est facile de se lancer aux États-Unis. Lancez-vous en France, vous allez voir. Ça, c'est le vrai test de passage. Allez, focus anus. Non, mais la chatroom, arrêtez. Hein, ça va rester dans les années. Non, la chatroom, on arrête. Hein, la chatroom est tombée dans un trou, là, ça craint. Bon, bref, parlons d'un peu. Non, puis en plus, arrêtez, c'est un sujet sérieux, après. Autofocus. Ouais, mais... Si mon autofocus, c'est celui du GH5, il va y avoir des problèmes. Hein. Le focus, c'est... Ah oui, j'ai vu que vous aviez mis des défis à Geoffrey. Et c'en était un, c'était de me ramener dans focus ce matin et de me faire terminer un Techscope à 9h. Ben, bonne chance à Geoffrey. Hein. Il y a du boulot, là. Il y a du boulot. Allez, Apple, oui, non, Apple, non, allez, soyons sérieux 5 minutes, sérieusement, soyons sérieux. Salut Monsieur Caméra qui m'a aidé pour le tournage des interviews Shadow que vous avez vues, de la petite émission Shadow, donc vous pouvez le remercier, il est venu faire le caméraman. Allez, je vais pas y arriver, il est 8h32, hein, et on est là à patiner, quoi. C'est que, oui, non, mais moi, tu me mets un gravillon sur la route, je fais un 360, hein. C'est juste une catastrophe. Jeff Williams, chez Apple, hein, eh bien, ils sont en train de lancer une étude qui est vachement intéressante. À base d'Apple Watch, ils ont lancé un programme à base d'une app. Tout le monde peut s'inscrire aux États-Unis, hein, je ne crois pas que vous puissiez. Et ils vont faire une étude sur plusieurs mois. Il suffit d'être âgé de plus de 22 ans. Et ils vont faire une étude pour savoir si l'Apple Watch peut, avec un système de LED qu'il y a déjà dans l'Apple Watch, mais une app qui déclencherait les LED d'une certaine façon, vous savez, dans la partie capteur de l'Apple Watch qui est ici, va déclencher les LED d'une certaine façon. Et le but est de détecter des changements de rythme du cœur pour détecter une maladie cardiaque qui s'appelle l'atrial fibrillation en anglais. Alors, je sais pas ce que ça donne en français. La fibrillation atriale. Je sais pas. Des artères. Je sais pas ce que c'est atrial. Y a-t-il un médecin? Fibrillation atriale. Y a-t-il un médecin dans la chatroom? Comme dans le train quand il y a un malaise. Y a-t-il un médecin à bord pour nous préciser ça? Ventriculaire? C'est les oreillettes du cœur, d'accord. L'arythmie cardiaque, c'est ça? On me confirme? Ouais, mais vous êtes tous médecins, en fait, dans la chatroom, là. Fibrillation auriculaire. Non, ça, je pense que c'est autre chose. Arythmie cardiaque. Bref, ça déconne du palpitant. Tofu, médecin, effectivement. Médecin de campagne. Ouais, vous déconnez du palpitant, quoi. Hein? Je suis pas médecin, mais j'ai regardé Dr House, ça compte. Elle est bonne, celle-là. J'imagine trop dans un train. Y a-t-il un médecin? Et le mec qui sait. Non, mais j'ai regardé tout Dr House, je peux faire quelque chose. Ce serait bon, ça. Alors, la fibrillation atriale correspond à une activité totalement désynchronisée de l'ensemble des mycocytes atriaux. Merci Google. C'est une arythmie d'origine auriculaire, les oreillettes du cœur. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est grave. C'est grave, c'est responsable de plus de 130 000 morts chaque année aux États-Unis. Donc, je pense qu'au niveau mondial, ça doit cartonner. Et c'est quelque chose qui est, a priori, assez difficile à détecter dans des examens cardiaques classiques, parce que tout le problème d'un examen cardiaque que vous faites, c'est que les examens, d'abord, on les fait généralement quand il y a un problème, hélas. Et c'est vraiment quelque chose qui se détecte, justement, sur les rythmes. Donc, et moi c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, avec bien sûr que ces objets-là ne vont pas remplacer ni un vrai examen médical ni mais peuvent donner des informations sur des mesures longues sur justement des moyennes lissées. Et là, vu que ça doit permettre de détecter manifestement des changements dans le rythme cardiaque, qui sont des patterns comme ça de changements qui sont inquiétants, vont permettre finalement de déclencher la visite chez le cardiologue. C'est pas là pour remplacer un cardiologue. C'est pas l'Apple Watch qui va vous. Et c'est en ça que je dis souvent, c'est pas ça remplace absolument pas et ça remplacera jamais, encore heureux, des vrais outils d'examen médicaux. Mais par contre, ça peut être des compagnons santé sur des informations. Et des choses comme le poids, des choses comme le rythme cardiaque, la tension, des choses comme ça, il y a des informations très intéressantes d'un point de vue médical sur une détection à long terme et régulière. Et c'est quelque chose, on passe à côté avec nos examens médicaux qui sont généralement vraiment ponctuels, quoi. Alors, effectivement, Bruno, le fond du problème, c'est qu'il ne faut pas que ces données se retrouvent chez les assurances. Parce que la tentation serait très grande pour les assurances, d'avoir ces moyennes et ces informations santé serait très précieuse pour les assurances. Donc, c'est toujours, moi je le dis depuis plusieurs années, je trouve que donner mon data à la médecine pour être une nouvelle forme, effectivement, de don. Donc moi je suis prêt à porter un certain nombre de capteurs pour des tests, pour faire progresser effectivement la médecine avec ces recherches data, parce qu'on le sait, le data va être extrêmement utile dans la médecine du futur, elle l'est déjà aujourd'hui. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de sécurité pour ce data. C'est des data très intimes, mine de rien, parce que c'est quand même ma santé. Et que bien évidemment, il est hors de question que les assurances mettent les pattes sur ce data médical. C'est le gros danger, et c'est ce qui inquiète, hein, et c'est normal. Mais c'est quand même vachement intéressant. C'est vrai que moi, je sais que, ne serait-ce que le rythme cardiaque que j'ai sur mon Apple Watch, me donne quand même une mesure assez intéressante. Bon, après, j'ai pas besoin de l'Apple Watch pour voir que je suis stressé et que je prends un peu trop de café. Mais justement, quand j'ai plusieurs alertes de mon Apple Watch me disant « Bon, t'as peut-être un rythme cardiaque un tout petit peu haut à l'arrêt », ça me permet de me dire « Ouais, va peut-être falloir que je me calme, là. Je vais me faire, allez, une petite demi-heure de... Je respire et on s'y remet, quoi. » Et c'est des informations que j'avais pas avant. Oui, le gros danger, mais on le sait, hein, y a déjà des mutuelles et des assurances santé. Arythmie cardiaque, d'accord. Oui, moi j'ai déjà eu des alertes, heureusement rares, de mon Apple Watch sur effectivement des rythmes cardiaques un petit peu hauts au repos. Parfois, elle n'a pas très bien détecté que j'étais pas complètement au repos à ce moment-là. Mais c'est quand même des informations intéressantes. Et je sais justement que moi j'ai eu une visite chez le cardiologue il y a pas très longtemps et je lui ai parlé. Et lui il dit c'est intéressant quand même les données qu'on peut avoir. Alors après il faut pas saouler votre médecin avec ces données-là, mais à la limite on arrivera peut-être dans un monde où votre médecin va vous les demander ces informations-là. Là où il faut pas les saouler avec, c'est que ils ont déjà beaucoup d'infos, hein, les médecins. Puis c'est aux médecins de faire le diagnostic, c'est pas à vous en tant que patient non plus. Mais alors, tu es médecin Jean-Philippe et tu nous dis justement que l'arythmie est fréquente, mais pas gravissime, mais bien intéressante de détecter. D'accord, donc tu nous confirmes ça. Alors, Chris, tu as un peu raison là-dessus. Le truc, c'est que l'Apple Watch, si quelqu'un de votre entourage a déjà une tendance à être un peu angoissé par sa santé et hypochondriaque, là, c'est un cadeau empoisonné. Parce que oui, moi je le sais, hein, d'ailleurs, la première fois que j'ai eu une alerte de mon truc cardiaque, j'étais oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Justement, j'en ai parlé avec le cardiologue, je lui ai dit ça, c'est. Il me dit oui, bah ça arrive. En fait, ce qui est intéressant, c'est si ça commence à se reproduire souvent, que vous ayez ce problème d'un rythme cardiaque un petit peu haut au repos. Régulièrement, bah à ce moment-là, ouais, vous alertez votre cardiologue. Là, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc faites quand même attention, effectivement, si quelqu'un est un peu hypochondriaque, c'est vraiment un cadeau empoisonné à lui faire, quoi. Je suis pas, donnez-moi votre Apple Watch. Mais moi, j'ai eu le même raisonnement. Je vous le dis, hein, alors là, elle est pétée maintenant, ma balance. Non, je ne l'ai pas pétée à cause de mon poids, ma balance. Elle a pris trop d'eau et elle démarre plus. Mais ma balance connectée m'avait permis, à une époque, de perdre un petit peu de poids parce que j'avais jamais eu des mesures comme ça sur long terme sur mon poids. Et ça m'a permis de comprendre que oui, il y avait des jours, je faisais des kilos de trop et d'autres des kilos de moins. Mais ce qui était intéressant, c'était mes moyennes. Donc c'est en ça que les objets connectés peuvent vraiment nous aider au niveau médical quand même. Sur ces données lissées à long terme. C'est palpitant comme article là. Ah! Elle est bonne! Non, elle est bonne. Honnêtement, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Allez, j'avance, on va parler un petit peu du Bitcoin. Le Bitcoin de tous les jours. Chaque fois, il prend 1000 dollars de plus. C'est de la folie. Ça en excite beaucoup, ça en inquiète certains. J'ai pas plus d'avis que ça à vous donner dessus. Si ce n'est que de voir tout le monde qui s'excite autour du Bitcoin. Moi, et là, je parle que de moi. Moi, j'ai toutes les alertes sur le rouge. Il est hors de question que j'achète du Bitcoin en ce moment, parce que quand je vois tout le monde qui dit d'en acheter en ce moment, c'est de mon expérience. Et parce que je suis un vieux con, et que arrêtez de croire que tout est inventé à notre époque, des crises spéculatives comme ça, j'en ai déjà vu. Et ça commence généralement par le journal de 20h qui parle de il faut acheter telle ou telle chose. Donc. Mais je me trompe peut-être. J'ai la modestie aussi de savoir que dans ma vie, je me suis profondément trompé sur certains trucs. Et que je disais déjà de ça du Bitcoin quand il était à 5000 dollars. Donc, sachez juste, et c'est la seule info que je vous donnais à titre privé, qu'on est sur de l'investissement hautement volatile en ce moment. Et comme le dit Steven d'ailleurs dans sa vidéo, là-dessus, n'y mettez surtout pas de l'argent dont vous avez besoin. Mais vraiment surtout pas. Parce qu'il y a quand même un prix Nobel d'économie qui a dit il n'est pas impossible que le Bitcoin soit à zéro à un moment. Je suis pas plus prudent que ça, parce que au contraire, j'ai un côté. Je peux faire tapis sur des trucs. Et je pense que no pain, no gain. Il faut prendre des risques si tu veux gagner. Mais moi, de ma manière de raisonner, et c'est comme ça que j'ai toujours agi en bourse. Quand tout le monde dit qu'il faut acheter une action, c'est là que je la revends généralement. Et que, honnêtement, si j'avais des bitcoins aujourd'hui, je serais en train de les vendre, là. Et justement, j'aurais été bien dans la merde si j'avais été chez Coinbase. Coinbase, c'est une des plus grosses plateformes d'échange. Et justement, il y a eu des fluctuations assez importantes avant-hier et hier. Et les utilisateurs... Ah, la pub qui s'enlève pas. Les utilisateurs de Coinbase ont eu la désagréable surprise de s'apercevoir que la plateforme était en panne. Et ça a fait gueuler plus d'un en disant « C'est marrant, la panne, elle tombe quand même pas complètement par hasard. » Au moment, parce qu'il y a eu effectivement... On sait que le Bitcoin est monté jusqu'à 11 000, je crois, 600 quelque chose dollars. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Et il est retombé de 15%. C'est pour ça que je vous dis que c'est hautement volatile. Hein. En une journée, il est retombé de 15%. Et du coup, un certain nombre de gens voulaient vendre. Et comme par hasard, Coinbase était bloqué. Pourquoi c'est grave? Eh bien, si vous avez suivi un petit peu comment fonctionnent les marchés, qu'est-ce que c'est qu'une crise ou une bulle qui éclate ou une crise boursière ou une crise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand un vent de panique se met, fait que tout le monde va se mettre à vouloir vendre en même temps. Hein. Les prix montent en ce moment du Bitcoin parce que de plus en plus de monde en veulent. Vu que c'est dans tous les médias, tout le monde veut acheter du Bitcoin. Comme le Bitcoin est une valeur finie, hein, c'est comme globalement c'est comme l'or. L'or, il y a un certain stock d'or dans le monde. Il reste de l'or à miner, mais du même qu'il reste des Bitcoins à miner. Mais globalement, c'est une valeur et c'est ce qui fait sa rareté en fait. C'est quand vous avez un truc fixe. Allez voir la vidéo de Steven sur le Bitcoin. Je trouve qu'il a expliqué le Bitcoin avec des mots très usuels, en disant bien que c'était une explication extrêmement grossière qu'il faisait. Mais c'était sa vidéo est vraiment très, très bien faite. Bref, en ce moment, il y a beaucoup de demandes, donc ça fait grimper les prix. Mais ce qui fait chuter, c'est quand tout le monde veut vendre en même temps. Or, si une des plateformes principales qui permettent d'acheter et de vendre ces bitcoins se met en panne au moment où ça commence à baisser, ça peut avoir deux phénomènes très graves. D'abord, on peut se dire « Ah, ils font ça pour éviter justement que ça dévisse, pour nous empêcher de vendre. » Mais du coup, ça peut créer un effet de surpanique. Et c'est presque ce qui s'est passé avec cette panne de Coinbase. Et c'est un peu le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin étant complètement dérégulé ou très peu régulé, et les systèmes pour accéder au Bitcoin étant des entreprises qui n'ont finalement aucun contrôle de sécurité ou quoi que ce soit, on a déjà vu hein, des plateformes entières de Bitcoin disparaître, font qu'il y a quand même... C'est presque le système autour du Bitcoin qui est peut-être pas si fiable que ça, quoi. Oui, bah on parle de la fameuse crise de la tulipe. Alors, j'ai lu depuis pas mal d'articles historiques sur ce qui s'était vraiment passé en Hollande avec les... Parce que c'est une des premières grosses crises spéculatives. Sur les tulipes, sur les oignons de tulipes. En fait, c'est devenu complètement fou. Je crois que c'était au 17e. En Hollande, et ça s'est mis à spéculer sur la rareté et les oignons de tulipe, et ça a été purement une crise spéculative où les gens finalement n'achetaient plus que la rareté en fait du produit et c'était plus rattaché à rien. Et effectivement, c'est une des premières crises qui a éclaté. Oui, c'est pertinent, sachant que les crises ne se ressemblent jamais complètement. Oui, la Bitcoin n'est pas effectivement la seule crypto-monnaie, mais c'est vrai que c'est quand même, en tout cas dans la perception, la crypto-monnaie mère. Effectivement, les autres s'alignent quand même pas mal sur sa valeur. Alors, n'ont pas la même valeur qu'elle, mais leur fluctuation s'aligne sur celle du Bitcoin. Et justement, un des trucs sur le Bitcoin, mais on a déjà eu des histoires dans ce sens-là, c'est que a priori, il y aura déjà 30 milliards de Bitcoin qui sont potentiellement perdus. C'est effectivement, c'est une étude, c'est un constat recensé par Fortune Magazine via une étude Chain Analysis, oui, ou un truc comme ça. Vous savez effectivement que le Bitcoin, il y a un nombre déterminé de Bitcoins qui peuvent exister. Je crois que c'est 21 milliards de Bitcoins ou 21 millions, je ne sais plus, d'unités Bitcoin qui pourront dans son existence être minées. Tous n'ont pas été découverts, c'est pour ça 21 millions, merci. 21 millions de Bitcoins qui pourront être minés. On est à 18 millions déjà, je crois, ou 16 ou 18 millions de Bitcoins qui ont été minés déjà. Donc il en reste à miner, mais le minage devient de plus en plus difficile. C'est le principe, hein, en fait, du Bitcoin. Et le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de ces bitcoins qui ont été perdus. Vous avez déjà entendu des histoires assez célèbres de mecs qui avaient balancé, comme au début, le bitcoin, quand c'est apparu, certains ont vraiment acheté du bitcoin pour, c'était le truc expérimental, on s'achetait une pizza avec, ça avait peu de valeur. Et du coup, comme ça vous arrive à vous, hein, de perdre vos mots de passe pour certains services, voilà, il y en a certains, ils ont pris du Bitcoin au début juste pour tester. Et du coup, ils ont perdu. D'ailleurs, ils n'en dorment plus la nuit. Il y a des gens qui doivent pleurer. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leur code d'accès à leur Bitcoin, au système des portefeuilles qui tiennent les Bitcoins. Et c'est des Bitcoins qui sont perdus. Donc, oui, il y a une valeur finie et terminée finalement pour les Bitcoins. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions, mais il y a déjà un certain nombre qui ont été perdus. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et on pourrait presque imaginer un scénario de film à partir de ça, des espèces d'archéologues, des hackers archéologues qui se mettent à déterrer ou à retrouver des vieux bitcoins perdus en retrouvant des histoires comme ça. On pourrait imaginer une série où il y aurait des histoires folles de mecs qui ont perdu leur bitcoin et un groupe de hackers archéologues, de hackérologues, qui essaieraient de retrouver leur vieux bitcoin. Alors, ça serait une équipe, bien sûr, on aurait le mec indien, un peu rigolo, hein. On aurait le beau gosse un peu concon, avec la nana super intelligente, mais qui a eu des problèmes avec son père. Enfin, voilà, on mettrait tous les archétypes d'un groupe comme ça. Tu t'es vu quand t'as bu? Archéo-hacker. Je sais pas. Les archéologues, je trouve ça pas mal. Quoique ça fait un peu truc d'alcoolique, les archéologues. Il faut un promptologue aussi pour rester dans le thème. Ouais. Je sais pas si le ménage du proctologue va être très intéressant, mais. Rigole pas, j'avais la double authentification, j'ai réactivé mon portable avant de désactiver la protection, grosse solitude. J'ai pu récupérer mes accès grâce au support, mais belle frayeur. Ouais, il y a des gens comme ça qui ont perdu leur Bitcoin, quoi. L'apérologue, c'est pas mal. Ça aussi, il y a une série à faire. Des mecs qui cherchent les meilleurs apéritifs dans le monde. Les apérologues. Alors, on avait prévu jusqu'au Pérou. On n'a pas passé le périph'. On a fait tous les troquets d'ici jusqu'à la porte du Lila. Mais non, je t'ai pas appelé
Voici le
Siri.
résultat de ma recherche sur Internet pour 6.
Mais ta
Jetez
gueule.
un œil.
Mais ta gueule. Non, mais Siri, ça va pas. Oh, couché. Avec le chapeau d'Indiana Jones. Allez, j'ai plus l'œil. Tu veux mon fouet? Allez, on y croit, il reste 3 articles. Putain, merde, il est 54. Non, il reste 2 articles, ça va. Là, j'en ai fait 2, tu vois. J'ai fait une article exception. Allez, hop, on continue. Ça sent le vécu, hein, ça. Hein, la tournée des Grands-Ducs, on dépasse même pas la rue. Ah, ça, j'en ai fait, ouais. À une époque. C'est une époque dont je me souviens pas énormément. C'est la première fois que tu entends la voix femme de Siri. Ah oui, mon iPad, j'ai mis Siri femme et mon iPhone Siri garçon. Et parfois, je les fais parler entre eux. Je m'amuse beaucoup. Bref, mes idées de Siri vont valoir de l'or. Vous moquez pas. Les archéologues, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Allez, parlons du Mac, justement. Le Mac qui a eu effectivement un gros bug avec Sierra, hein, qui permettait, si quelqu'un venait chez vous sur votre Mac, hein, on ne pouvait pas le faire à distance, je crois. Pouvait effectivement, et c'était assez grave, carrément trouver les codes admin de votre Mac, si je me trompe pas. Ils ont fait un fixe très rapidement, Apple. Manque de peau, hein, dans le patch, il y avait un autre problème, puisque maintenant vous risquez d'avoir un problème si vous voulez partager vos fichiers. Je crois que c'est ça. Ça bloque. J'ai pas essayé pour voir si je l'avais. With the file sharing system of a macOS preventing some user from authenticating with or connecting to file share. Donc il y a un problème d'authentification. Si vous connectez au partage de fichiers, effectivement, sur vos Mac. Alors, il n'y a pas de patch, mais Apple a tout de suite donné une ligne de commande que vous pouvez mettre dans le terminal de vos apps. Et qui permet de libérer la fonction. Mais bon, c'est un peu con quand même. Fixer un bug et en mettre un autre. Et en plus, Apple le sait. Là, ça doit être l'horreur pour eux, à mon avis. Il y a quelques mecs qui se sont fait virer ce matin. C'est que on demande à Apple, vu son prix, le prix du matériel, d'être irréprochable. Ce que je comprends, hein, c'est difficile d'être irréprochable. Mais au prix où Apple vend son matériel, c'est pas des trucs qu'on admet chez Apple de faire ce type d'erreur. Ils en font pourtant. La ligne de commande, je vais peut-être pas te la dicter. Hein, ça me paraît un peu. Et tu vas voir l'article dans les flipboards et tu as la ligne de commande dessus. L'article, c'est un article de The Guardian. Je l'ai mis dans le flipboard Nowtech et ça s'appelle. Le titre de l'article, c'est Apple breaks file sharing on Macs while fixing huge password security flaw. Voilà pour le titre de l'article. Merci Samuel d'avoir mis le lien vers l'article. Alors, regardez si vous avez le problème avant de mettre la ligne de commande dans Terminal. Hein, parce que vous avez peut-être. Voilà, en touchant au Terminal, vous pouvez aussi créer des problèmes. Qui a été méchant? Qui a dit un truc méchant? Jérôme Blin, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, je vois pas. T'as le problème, d'accord. Bon, bah, il y a la solution. Je pense qu'il y aura un autre patch dans la journée. Et on termine ce TechScope en parlant de mariage, d'engagement, hein. Et souvent, vous dites, mais comment je pourrais faire pour avoir une bague de fiançailles, une bague pour déclarer ma flamme, pour faire ma proposition, une bague un petit peu originale, mais toujours en restant dans le bon goût, hein, parce que c'est important de rester dans le bon goût. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Vous pouvez, voilà, vous êtes le prince Harry et vous voulez faire votre déclaration à l'actrice de. C'est le prince Harry, là, qui est fiancé. Comment elle s'appelle? C'est l'actrice de la série Suits. Comment? Je sais même plus son nom. Ouais, c'est l'actrice de Suits, effectivement. Meghan Markle. D'accord. Markle. Meghan Markle. Ok, je le marque. Et c'est pour ça que, en fait, quand je l'ai rencontrée, bah, ça s'est pas fait. Parce que j'ai sorti cette vanne-là. Elle m'a dit, je m'appelle Meghan Markle, et moi j'ai sorti un papier, un crayon, et j'ai marqué Meghan. Et là, elle fait. Pff, voilà. Je sors. Ok, je m'en vais. N'importe quoi! N'importe quoi, Jérôme. Jérôme a jamais dans nos mémoires. Bon, je reviens quand même sur la bague. Je reviens sur la blague et la bague. Hein. Vous allez pouvoir maintenant faire votre proposition en pleine partie de Pokémon Go, parce que c'est ça qui est classe. Vous ouvrez votre Pokéball et dedans, cette magnifique alliance Pokémon avec le diamant. Hein. Vous voyez les deux alliances en plus sans boîte pour faire un truc qui doit faire partie de Pokémon, mais je m'y connais rien. Vous avez des Pikachu en or pour complémenter parfaitement cet anneau en argent massif, sein de ce magnifique diamant de plus de carats que je sais pas qui. Et il est 9h. Fin de l'article. Hein, non, alors, si ça vous plaît pas, je continue, parce qu'un téléachat comme ça, ça se rate pas. Hein. Il y a bien sûr le choix, parce que c'est important d'avoir le choix. Vous pouvez avoir ce modèle-ci, qui est déjà beaucoup plus classique. Hein. Mais à l'intérieur, vous avez des personnages Pokémon qui sont discrètement gravés à l'intérieur de votre anneau. Comme ça, les archéologues du futur, si jamais ils retrouvent votre alliance... pourront se dire, mais quelle génération de dégénérés, les mecs, de cette époque-là. Là, si vous voulez être un peu moins discret, mais toujours classe et élégant, hein, vous avez ces alliances avec les personnages, mais cette fois à l'extérieur. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. Et toujours la classe et le bon goût. Et bien sûr, hein, vous pourrez... faire votre proposition en lançant directement dans la tête de votre future promise ou futur promis, parce que je vous rappellerai les femmes que vous pouvez aussi faire votre demande en mariage, hein, c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire, eh bien, il suffira de lui lancer avec grâce et élégance cette grosse Pokéball dans la gueule et vous la verrez disparaître. Ou vous le verrez disparaître. C'est pas magnifique, ça ? Hein ? C'est pas la classe ? Je suis certain de mon coup avec Marion. Hein. Si elle me voit arriver avec mes Pokéballs, de toute façon... C'est quoi cette grosse boule dans ta poche ? Non, rien, t'inquiète. Si, justement, je m'inquiète. Après, si on est fan, c'est pas pire que Star Wars. Oui ! Non, mais c'est vrai ! Dans l'absolu, c'est vrai. Et puis, je juge pas. Vous avez tout à fait le droit de vous prendre des alliances comme ça. Il faudra juste pouvoir les assumer plus tard. Non, mais c'est fait exprès, tofu sauvage, l'ambiguïté de ma phrase. Si elle me voit arriver avec mes Pokéballs dans la poche. Toutes les filles de la chatroom sont tombées pour mes Pokéballs. Franchement. Et voilà comment Jérôme dut arrêter Texcope grâce à une remarque graveleuse. Il s'est pris 3 procès pour harcèlement moral. C'est terrible, hein, quand même. Je veux des alliances Fast and Furious. Ouais, là, c'est la totale. Celui qui va... Et alors après, on va en avoir qui vont arriver avec l'alliance iPhone. L'alliance qu'est-ce qu'il y aurait comme truc bien geek et bien difficile à assumer dans quelques années. Jackie Tuning. Bref, hein, l'important n'est pas le flagon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Donc la bague dans un mariage, c'est pas l'important, la taille de la bague, la taille du diamant, c'est très très surfait, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une bague? Moi, je pose la question, hein. Le mec, il prépare un peu son terrain. Franchement, c'est un peu surfait. Il y a des superbes alliances Disney, genre La Belle et la Bête. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, mais la plus belle alliance, c'est celle du cœur, dit le mec qui peut pas se payer des alliances. Besoin, non, mais c'est bien Nazado, il faut remettre les choses à leur place quand même. Bref. Voilà, donc les alliances Pokémon, le cadeau de Noël à faire. Offrir des alliances à Noël, Super bonne idée de Jérôme, hein, votre expert docteur Escado, offrir des alliances à Noël. On est bien d'accord. C'est complètement ridicule, mais beaucoup moins ridicule que la question Platinium, puisque nous passons dans la section questions de notre Techscope de ce matin. Je vous remercie pour ceux qui doivent nous quitter. Je vous remercie de l'avoir suivi et présenté avec moi. Et je souhaite un bon week-end à ceux qui nous quittent maintenant, mais on attaque tout de suite le FAQ, le Q&A, le AMA avec la question Platinium de Benoît qui nous dit « J'ai une question pour Jérôme. Aujourd'hui, de ta faute, et c'est de ma faute, oui, comme d'habitude, on ne dit jamais que c'est grâce à moi qu'on achète quelque chose, on dit toujours que c'est de ma faute si on a acheté quelque chose. J'ai commandé un Shadow pour un mois et je voulais te demander si le boîtier allait, selon toi, faire une différence ou non sur l'expérience. Car à un moment, je n'avais pas pris. » Non ! Non ! Non ! Alors ça, c'est important à comprendre. Je sais que Shadow n'est pas facile à expliquer comme produit tant qu'on ne l'a pas utilisé. Le boîtier ne changera absolument rien à ton expérience, si ce n'est la gestion de tes périphériques. Je m'explique. Si tu lances ta session Shadow d'un Mac, d'un PC, de ton boîtier, tu auras la même expérience parce que tout ce qui est graphisme se fait côté serveur. En fait, la vraie expérience, ça va dépendre de ton réseau. Et à moins que tu aies vraiment un processeur qui date de 2005, 2006, 2007, ils m'ont dit à partir de 2008, les processeurs gèrent le décodage de la vidéo parfaitement. Le seul truc qu'un Shadow fait en local sur ta machine, c'est décoder une vidéo qui arrive et renvoyer des infos au Shadow. Donc ça n'a absolument rien à voir sur les performances, que tu le fasses d'un boîtier, d'un ordinateur pourri, d'un ordinateur très puissant, de ta télé et tout ça. Et effectivement, quand je dis la seule différence, c'est les périphériques. Si sur ton ordinateur sur lequel tu as lancé ta session Shadow, tu peux brancher tes périphériques de gamer, nickel, t'as pas de problème. Mais ça peut être pratique de prendre un boîtier si tu veux te faire un poste dédié au jeu chez toi et que tu veux garder tout ton clavier de gamer, ta souris gamer et ton casque branché sur ce boîtier. Non, tu peux pas installer un macOS sur Shadow. Ça serait le rêve. Je sais que quelqu'un m'avait posé la question. Après, est-ce qu'Apple va lancer des Mac Shadow? Moi, j'ai envie de dire, ils auraient bien raison. Et je pense qu'Apple... Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, si j'étais Apple, je rachèterais Shadow en ce moment. Ça serait le meilleur achat qu'Apple pourrait faire, c'est acheter Shadow en ce moment et le proposer comme service Apple, Shadow, de pouvoir avoir un PC de gamer sur tes Mac. Franchement, ça serait le truc idéal pour Apple. Shadow. Mais, et je doute pas que si ça prend... Les VM, on va dire grand public, les virtualisés. Je sais qu'on a dépassé 9h, mais on est en plein Q&A. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup? Apple fera, et je pense que ça pourrait être hyper intéressant, des abonnements à des Mac puissants virtuels, notamment pour faire de la gestion, faire du montage, ça serait génial, quoi. Alors, j'y reviendrai dans mon test sur le montage. Le montage vidéo avec le Shadow, pour moi, pose encore certains problèmes liés effectivement à la gestion des fichiers. Mais c'est pas tellement le problème de Shadow, c'est le problème de comment fonctionne un logiciel de montage aujourd'hui. J'ai fait des premiers tests, pour moi, qui sont pas vraiment concluants dans le workflow. Ça marche très bien, hein, mais tout le problème est où est-ce que je mets mes rushs? Est-ce que je les garde en local sur un disque dur branché sur mon Shadow? Et à ce moment-là, je suis obligé d'avoir quand même une vitesse d'upload suffisante pour qu'il y ait une lecture de mes fichiers qui sont en local par le logiciel de montage qui sera sur mon Shadow. Bref, ça pose des problèmes. Tout dépend, encore une fois, de la connexion que vous avez. Si vous avez une connexion pro avec un débit descendant aussi haut que votre débit ascendant, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Mais sur des connexions grand public, peut-être moins. Après, je réfléchis déjà à des solutions avec des proxys. Mais bon, là, ça devient très, très technique. Allez, je commence à prendre vos questions dans la chatroom. Si vous avez posé des questions, reposez-les. N'oubliez jamais de faire des copies de vos questions pour pouvoir les reposer. Ça serait quand même un aveu d'échec que de proposer un Windows virtuel sur le système Apple. Pas du tout, je trouve. Tu sais, Apple a aucun problème à avoir fait un bootcamp. Tu peux aujourd'hui lancer... Et au contraire, ça leur permettrait de se dédouaner. Apple, ça leur permettrait de dire, bah, vous voulez jouer avec un Mac, on a une solution. Ça s'appelle Shadow. Bim. Non, moi, je les vois, je les verrais bien lancer, justement. Ça, c'est honnêtement, acheter un Mac plus un Shadow, et c'est ce que j'ai, c'est le combo idéal, pour moi, en tout cas. Avez-vous déjà parlé des médicaments connectés? Non, Johan, on n'en a pas parlé. Effectivement, il faudrait que je trouve un article là-dessus. Je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Je viens de voir dans une affaire judiciaire qu'il est possible de savoir si un téléphone est en mode avion. Oui, ça me semble... Ouais. Rendre les Macs jouables? Ouais, ben, ils auraient dû le faire, mais... Le problème, c'est un problème de développement aussi. Est-ce que les développeurs de jeux... Alors, Blizzard l'a fait pendant un certain temps, mais on sait qu'Overwatch, par exemple, n'est pas compatible Mac. Faut attirer les développeurs. Je pense qu'Apple a d'autres chats à fouetter. Et que Apple, sa plateforme de gaming, c'est son iPad et son iPhone. Ils veulent... Je pense pas qu'ils pousseront tellement plus loin les Macs dans le monde du gaming. Pour, vraiment pour Apple, et ils deviennent très forts dans le gaming hein, quand même avec l'iPad et l'iPhone, mais pour eux le gaming, l'avenir du gaming est mobile. Quel soft je peux utiliser pour débuter le montage vidéo? Commence par iMovie sur iPad. Et dès que tu t'es fait la main sur iMovie, passe à LamaFusion sur iPad avant même de passer sur un ordi à faire du montage. Tu apprendras très bien les bases du montage sur iPad. Le gaming PC voué à disparaître. Alors là, Jérémy, depuis que je joue aux vidéos, il y a des articles sur la disparition du gaming PC. Il n'est pas mort, hein. Et il donne encore de sérieux coups de pied pour un mort-vivant. Hein. J'y crois pas, ça, la disparition du jeu PC, moi. Mais... Parce que tant que je jouerai, moi, je joue que sur PC. J'arrive pas, vraiment pas à m'y faire en console. Y a-t-il des risques de surchauffe en utilisant Shadow ou le PC? C'est juste une simple... Non, c'est une simple connexion Internet. Il n'y a rien qui chauffe. Et surtout, ça, c'est un des avantages financiers du Shadow. Ta consommation électrique pour faire tourner ton ordinateur, du coup, elle est super minime. Alors, ça ne veut pas dire... C'est pour ça que je trouve quand Emmanuel parle d'écologie... Alors, il a raison, parce que la consommation d'énergie et la dépense calorifique des ordi, ça devient un problème du data center. Mais c'est vrai que les data centers sont plus optimisés pour gérer effectivement le courant et la perte d'énergie que vous en tant que particulier. Après, oui, je suis d'accord que les tablettes et les iPhones vont et les smartphones vont prendre une place importante dans le gaming. Je suis pas, tu sais, quand les consoles sont arrivées, on disait que le PC disparaîtra et il n'a pas disparu. Simplement, il y a certains jeux qui sont mieux à jouer sur des PC, d'autres qui sont mieux sur des consoles. Mais pour l'instant, je suis toujours pas convaincu par un bon wargame sur console, par exemple. Et comme c'est mes jeux préférés, bah, je serai toujours un joueur PC. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est pas du bullshit, parce que la consommation électrique d'un routeur, mais d'un data center, elle est énorme, mais d'abord, elle est mutualisée, ils ont souvent des équipements, en tout cas des data centers modernes, pour être un peu plus écologiques. Et les data centers peuvent servir effectivement à chauffer des logements. Mais moi, j'ai le souvenir de ma vieille tour PC overclockée que j'avais, qui, effectivement, en hiver, faisait un excellent chauffage d'appoint. Ah oui, les routeurs entre toi et le data center. Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. On n'a fait que 2-3 questions, hein, là, dans le Q&A. Allez, je prends encore quelques questions, parce qu'on va peut-être pas parler que de Shadow. Hein? On arrête sur Shadow? Vous avez des questions sur autre chose? Samuel nous dit moi. Est-ce que tu as une question, Samuel? Conseil pour prendre des photos sous la neige. Alors, tout dépend. Est-ce que tu veux voir les flocons de neige, que ça fasse des taches blanches, ou est-ce que tu veux au contraire que tes flocons de neige, on les voit pas trop? Parce que, en fait, il faut beaucoup jouer avec ta vitesse quand tu fais des photos de neige, ce qui n'est pas toujours facile si tu fais des photos de nuit de neige. C'est pour ça que les photos de nuit de neige, c'est presque un exercice en soi. Mais en jouant sur ta vitesse, tu auras les flocons plus ou moins nets, en fait. Si tu veux voir les flocons, il faut que tu prennes tes photos avec une vitesse haute. Tu vois, il faut que ça soit rapide pour figer le mouvement. Tu peux même t'amuser. Alors ça, c'est une photo de nuit que j'ai faite. Si tu sais, alors, je te vais parler un peu chinois, mais si tu fais tu gères ton flash externe en second rideau, que tu fais une pause longue et que tu balances un coup de flash pour fixer les flocons, en fait, tu balances un coup de flash, ça va illuminer les flocons qui sont juste devant ton appareil, donc faire des belles taches blanches, mais pour qu'on voit quand même ce qu'il y a derrière, tu fais une pause longue, par exemple sur un monument, et tu balances un coup de flash après sur les flocons. Et tu devrais obtenir des résultats intéressants. Un peu technique comme photo, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, les flocons, la pluie et ce genre de choses, des mouvements, tout va se jouer sur votre réglage vitesse en fait. T'as 17 ans, t'aimerais débuter avec Shadow, tu vis en Belgique, ton opérateur est Proximus, et je sais pas si j'aurai une bonne connexion. Le mieux, et franchement, parce que moi je veux bien répondre à toutes vos questions, mais le mieux c'est que vous posiez vos questions à Shadow directement. Je suis pas payé par Shadow en plus pour faire leur service après-vente ou pré-vente. Je ne l'ai pas en sponsor, contrairement à Harddisk qui a Shadow en sponsor. Moi c'est pas mes sponsors, hein, Shadow. J'ai pas de code de réduction pour que vous commandiez un Shadow. Quelque part, ça me permet d'être objectif avec Shadow. Mais voilà, je sais que beaucoup, beaucoup de gens m'ont posé beaucoup, beaucoup de questions. Je crois que je vais tous leur dire, allez les poser à Shadow, hein, c'est leur boulot quand même. Alors, s'il te plaît, Jérôme, c'est la troisième fois que je te pose une question sur Shadow. En habitant en Espagne, peut-on avoir Shadow? Non, ils ne sont pas encore ouverts sur l'Espagne. Photographier des nuits, des illuminations de Noël sur les maisons. Là aussi, les petits génies, tu as des choix à faire. Est-ce que tu veux... Le problème, c'est que si tu fais une pause longue, tu verras les maisons, mais du coup, tes illuminations risquent de prendre trop de lumière. Ça peut être joli aussi, hein, mais... Ou alors, ce qu'il faut, c'est que tu baisses ta vitesse, monte pas trop en ISO non plus, pour finalement choper que les lumières de tes décorations. Donc là, tu vas vraiment jouer avec ton ISO et ta vitesse, en fait. Et la photo de nuit, la photo en basse luminosité, il y a une vraie réflexion que vous devez avoir, c'est est-ce que je veux voir des choses que je ne vois pas à l'œil nu en faisant ma photo? Dans ce cas-là, je pars dans des grandes vitesses et des ISO élevés. Ou est-ce que je veux que la nuit ressemble à la nuit et que les points de lumière, justement, se détachent bien dans une nuit bien noire? Et à ce moment-là, il faut plutôt partir dans des vitesses hautes et pas trop monter ses ISO. Attendez, je remonte un peu vos questions. Ma série du moment, qu'est-ce que je regarde en ce moment? J'ai pas le temps de regarder grand-chose, parce que j'essaye de jouer un peu avec mon Shadow PC le soir, donc je regarde plus grand-chose en ce moment. Non, j'ai rien à te conseiller là tout de suite. Ça me reviendra peut-être. Moi, je suis très enthousiasmé hein, par le Shadow, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. As-tu fait des Nowtech shoot, des tutos? Comment utiliser un flash? Non, mais Tristan, vous avez expliqué un certain nombre de choses avec le flash. On n'a pas encore tous les tutos sur tout ce qu'il faudrait expliquer, mais il vous a déjà fait un truc à quoi sert le flash et tout. Tu n'as pas regardé Startup sur Amazon Vidéo? Non, j'ai pas vu. Est-on propriétaire de la licence? Non, je crois qu'elle est liée à ton abonnement. En gros, tu peux pas prendre ton. Si tu arrêtes chez Shadow, tu peux pas en prendre ton Windows et l'installer sur une machine locale que tu aurais achetée. Je crois pas. À vérifier avec eux, mais je crois pas. Quoi, j'ai le temps de jouer très peu. C'est un scandale, t'as bien raison. Tu peux avoir la fibre avec Proximus. Écoute, je connais pas comme provider en Belgique. S'il y a des Belges qui peuvent. C'est Belgique, Proximus? S'il y a des Belges qui peuvent te répondre. Travailles-tu sur Nowtech le week-end? Hélas, trop. J'essaye de pas bosser le week-end, mais vous avez tendance à m'écrire. C'est normal, vous, c'est le week-end, donc vous m'envoyez beaucoup de courriers, on me demande de faire pas mal de choses le week-end. Et puis souvent, j'ai des montages en retard ou des tournages que je dois faire. Je travaille trop le week-end encore. J'essaye, là, ces derniers temps, de faire des vrais week-ends où je me repose, parce que je sais que je vais pas pouvoir continuer longtemps à ce rythme-là. Mais c'est pas facile de ne pas bosser le week-end. Ouais. On a quand même beaucoup de pression pour sortir des vidéos. C'est pas de votre faute, mais c'est comme ça que YouTube marche. Donc c'est ouais, c'est un putain de rythme hein, quand même. Toute la pub que tu leur fais, pourquoi Shadow ne te sponsorise pas? C'est pas exclu que je. On n'en a jamais vraiment discuté avec Shadow. J'ai plutôt un rapport pour l'instant, on va être entre guillemets journaliste avec Shadow. On verra. Oui, je pense qu'on va essayer d'organiser des opérations avec Shadow. Mais c'est vrai que je leur ai jamais fait la demande non plus. Hein, si vous voulez me sponsoriser, je sais pas. De toute façon, je suis pas très bon hein, pour demander des sponsors, moi. Sinon, j'en aurais peut-être déjà. Hein. Est-ce qu'on peut utiliser un flash externe mais synchro avec le compact flash? Oui, tu peux faire une synchro par flash, le flash qui va déclencher le flash. Ça devient un peu technique à expliquer là en live, mais ça dépend s'il a un flash ou pas en fait, ton compact expert. S'il n'a pas de flash, c'est mort, je crois. Un caméo un jour qui réunirait les Scuds, j'y crois pas trop à la réunion des Scuds, parce que d'abord, je pense pas qu'on en ait tant envie. Tu sais, on a bien vieilli quand même. Je me demande si Scud n'est pas mieux dans la mémoire des gens que d'essayer de forcer un retour. Ça aurait peut-être un petit côté un peu pathétique, à mon avis. Hein. J'aime pas en plus vivre dans la nostalgie, ça me saoule en fait. Je le dis honnêtement. Après, donc, vous aurez compris, de mon initiative, non. Après, si Arnaud et Philippe organisent un retrouvaille Scuds et qu'on fait quelque chose, bien sûr que j'irai, quoi. Mais non, j'en ai pas une folle envie. Scuds, c'est ma toute première émission sur le web d'il y a bientôt 10 ans. Est-ce que ta journée est toujours organisée de manière routinière, genre tant d'heures de montage? Non. Hélas, j'ai des gros problèmes d'organisation, Vertu. J'ai un esprit extrêmement chaotique. Mine de rien, Techscope m'aide à me réguler parce que ça m'oblige à me réveiller à une heure fixe et commencer ma journée avec une routine. Et tu sais, c'est un truc, on a tous des défauts, hein. Et moi, j'ai des gros problèmes, effectivement, de gestion quotidienne, on va dire. Je suis un esprit très libre qui part dans tous les sens. Et il faut que je m'astreigne un certain nombre de règles. En théorie, oui, j'essaye de découper, en fait, ma journée de travail en des sessions de 45 minutes. Et je change de tâche toutes les 45 minutes. Mais avec le montage vidéo, hélas, c'est quasiment impossible. Le montage vidéo, c'est un truc qui monopolise tellement l'esprit que facilement je me retrouve à faire des 6-7 heures de montage non-stop sans lever ma tête de l'écran. Et c'est pas bon, ça. Et du coup, mon administratif traîne, je réponds plus aux mails, enfin voilà, quoi. Non, je suis très mal organisé, hein. Je suis quelqu'un, j'ai des gros problèmes d'organisation. Mais comme toute personne non organisée, on a une forme d'organisation aussi qui moi, ça me permet, par contre, la contrepartie de mon manque d'organisation, je suis toujours quelqu'un qui bouillonne d'idées. J'ai des idées, mais j'ai parfois, je manque de l'organisation pour les réaliser. Et puis surtout, j'ai un tempérament un petit peu artistique qui fait que oui, et ça je vous le dis, hein, il m'est arrivé de perdre des demi-journées de travail sur un détail que vous n'avez même pas vu dans mes vidéos, mais qui pour moi m'obsédait. Et il m'est arrivé de recommencer à zéro des vidéos parce que j'étais pas content du résultat. Jusqu'ici, j'ai jamais publié des trucs dont j'étais vraiment pas content. Il y a des trucs que je suis plus fier que d'autres, mais j'ai une exigence d'un tempérament, je suis pas artiste, hein, mais j'ai un tempérament artistique qui fait que j'ai des coups de flip et j'ai des coups d'angoisse. Et parfois, je vais prendre ma vidéo, je vais virtuellement en faire une boule, je vais la jeter à la poubelle et je recommence tout. Faire des vidéos intéressantes, trouver des sujets, alors c'est vraiment pas mon problème. Vous êtes très gentil d'ailleurs de m'envoyer plein d'idées de sujets de vidéos, mais je vous garantis, s'il y a un truc dont on manque pas, c'est des idées pour faire des vidéos. Ça, j'en ai à la pelle. C'est pas là le problème. Est-ce que tu as beaucoup de vues de tes anciennes vidéos de Naotech des mois après leur sortie? Oui. D'ailleurs, il y a des vidéos qui font plus de vues un an, deux ans après, au quotidien, que quand elles sont sorties. Ah oui, j'ai des vidéos qui... J'ai des vidéos qui datent de 3 ans qui continuent à faire beaucoup de vues. Hein. Enfin, beaucoup de vues à mon niveau. Hein. Allez, je prends une dernière question, puis on va arrêter là. Ah oui, on va arrêter là. Est-ce que vous avez une dernière question? Si vous n'en avez pas, on va arrêter là. Hein. Oui, je suis perfectionniste. Mais tu sais, je suis un perfectionniste qui me dit, qui essaye vraiment de me dire tous les jours, le mieux est l'ennemi du bien. Et un perfectionniste doit se perfectionner et apprendre à lâcher un petit peu pour produire. Parce que le truc parfait n'existe pas, et à force de traire des mouches avec des gants de boxe, comme j'ai tendance à faire parfois, il faut faire les choses. Et c'est pour ça que le dicton « le mieux est l'ennemi du bien », il vaut mieux... Enfin, quelque chose n'est jamais fini, quelque chose est toujours perfectible. Mais il faut sortir les choses, même quand elles ne sont pas parfaites, parce qu'il est plus important qu'une chose soit faite qu'une chose soit parfaite. Ou pas faite. Oh, c'est joli ça comme phrase. Attendez, j'essaie d'inventer un proverbe. Il vaut mieux une chose faite qu'une chose parfaite, pas faite. Ouais, c'est pas top. Faut que je trouve une meilleure formulation pour le proverbe. Mais c'est pas mal, là, on tient quelque chose. Hein. Bon, sur ce, trêve de conneries, hein, je vous laisse. Vous avez un week-end à préparer et une dernière journée de boulot qu'il va falloir... finir, hein, pour profiter du week-end. Moi, donc, je vous retrouve demain matin sur la chaîne Tech News & Tech pour un Techscope exceptionnel pour son marathon de 24 heures. J'y serai à partir de 8 heures pour faire un Techscope, mais ça sera pas sur cette chaîne ici, ça sera sur Tech News & Tech. Hein. Donc, on peut se retrouver demain matin, pour ceux qui veulent. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi. Salut tout le monde, passez une très très bonne journée.